It doesn't really feel like we're being impeached, do you? The country is doing better than ever before. We did nothing wrong. We did nothing wrong.
Oui, nous. Nous n'avons rien fait de mal. On sent pas que nous avons changé. Trump, qui parle de Trump en parlant de nous. Mm-hmm. Pourquoi?
Parce que depuis le début de cette affaire-là, il met le Parti républicain dans la même case que sa personne propre, Donald Trump.
Penses-tu vraiment qu'il s'adressait au Parti républicain ou à le Parti républicain, le président et vous, mes fans qui votez pour moi, qui êtes ici ce soir au Michigan?
Il parlait à la et de la grande famille républicaine. Et on n'a pas besoin de deviner, parce qu'il l'a dit à plusieurs moments dans le discours, que le Parti républicain n'avait jamais été attaqué de la sorte. Alors qu'en réalité, c'est lui qui faisait la cible de cette enquête-là et de ce vote-là hier, et qu'en même temps, le Parti républicain n'avait jamais été aussi uni que ça. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas entièrement faux, dans la mesure où hier, on l'a vu, le vote qui a été en fait tenu en même temps que le président menait ce rallye électoral-là au milieu du Michigan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul élu républicain sur les 200 ou à peu près qui siègent à la Chambre qui a voté pour la mise en accusation du président. Ça, c'est une première dans l'histoire américaine. Là, on n'a déjà évidemment pas vu ça souvent, un impeachment, l'impeachment d'un président.
Les démocrates ont le mérite d'avoir quelques dissidences.
D'en avoir trois, dont un qui a annoncé il y a quelques minutes, en direct du bureau Oval, flanqué du président Trump, qu'il devenait un républicain. Tu sais, c'est vraiment flyé. Et ce qui est également remarquable aussi, c'était l'agressivité du président hier. C'est un mot que je choisis, je pense, de façon prudente, là. Il fallait le voir. Je ne sais pas si tu l'as vu. Je sais que tu l'as entendu. Il fallait le voir. Il était, disons, teint orange foncé hier dans le visage. Et ça allait avec son humeur. Il était furieux.
Sa station de bronzage collée à Broil.
Ouais, exactement. En direct au Michigan, c'était quelque chose. Et dans la nature des propos. Donc, il est sorti en attaquant Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre. Ça, c'était pas très surprenant, la traitant de folle. Il s'en est pris à Adam Schiff, un autre élu assez important du caucus démocrate à la Chambre, qui a mené en bonne partie l'effort démocrate pour ce qui est de l'impeachment, en riant de son apparence physique, en disant que c'est pas le type le plus beau à Washington. Et dans ce qui fait réagir énormément depuis hier soir, il s'en est pris à un ancien élu. Pourquoi on dit ancien?
Décédé.
Parce qu'il est décédé, et c'est pas n'importe quel élu. Écoute, Patrick, c'est tellement pas n'importe quel élu que quand il était décédé, c'est un membre de la Chambre des représentants aux États-Unis. J'en avais parlé en ondes à l'émission il y a quelques mois. Pourquoi? Parce que c'était le doyen de la Chambre des représentants. C'est un type qui a servi pendant un demi-siècle à la Chambre, qui était vénéré, pas n'importe où, au Michigan. Dans le même État où il parlait, où il prenait la parole hier. Et ce qu'il expliquait, ce qu'il disait devant ses partisans, c'est qu'au moment du décès de l'élu en question, qui s'appelait John Dingell, il lui avait offert une funéraille, un service funéraire assez grandiose.
D'exception.
Oui. Et que sa veuve, qui est devenue essentiellement sa successeur à la Chambre des représentants, qui a pris son siège quand il est mort, l'avait remercié personnellement en disant « Monsieur le Président, je suis vraiment contente, John nous regarde de haut aujourd'hui », faisant évidemment référence au paradis, au ciel. Et hier, en rallye, Donald Trump relate ça et dit qu'en fait, peut-être que le type en question, le défunt membre de la Chambre, les regarde d'en bas. Référence, évidemment, à une place possible en enfer. Et là, tu as vu, même dans la salle remplie de ses partisans, une réaction de malaise assez visible. Et là, évidemment, c'est la controverse depuis ce temps-là, depuis hier. Donc, ça te donne une petite idée du climat qu'on a présentement.
Bien, écoute, Trump continue à considérer ses relations avec les autres de la même façon que les mafieux considèrent leurs relations avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause plus grande. C'est « tu me dois quelque chose ».
Oui.
Il ne peut pas comprendre que cette femme-là puisse à la fois, dans la même année, l'avoir remerciée d'avoir fait preuve de grandeur, et après ça, que cette femme-là considère que son devoir envers la Constitution, c'est de voter pour l'impeachment. Ça ne lui traverse pas l'esprit.
Comme si un vote au Congrès était l'équivalent d'un manque de loyauté personnelle.
En fait, c'est sa conception de la loyauté, Raphaël. C'est-à-dire que comme j'ai fait preuve de grandeur en permettant à ton mari d'avoir des funérailles d'État, ben tu devrais me remercier en ne votant pas pour l'impeachment.
Tu as tout dit.
À part ça, ton voyage aux États-Unis?
Je vais t'en parler ça davantage demain, parce que je veux te parler encore au moins pour une minute de la suite du processus d'impeachment.
Okay.
Parce que là, quand on s'en parlait, on se disait, ben ça va voter de façon majoritaire à la Chambre, après ça va aller au Sénat. Là, c'est plus clair à 100% que ça va aller au Sénat, tout au moins que ça va aller au Sénat rapidement. Voici pourquoi. Sans tomber dans un cours théorique, là, pour que le procès sur la destitution commence au Sénat, il faut que la Chambre, de façon officielle, que la présidente de la Chambre remette la mise en accusation, le petit papier au Sénat. Et là, Mme Pelosi refuse de le faire pour l'instant.
C'est assez habile, je trouve.
Bien, c'est très habile dans un contexte où les démocrates ne sont pas pressés d'en avoir un procès au Sénat. Pourquoi? Plusieurs raisons. La première, c'est une question de calendrier électoral. C'est-à-dire que là, il faut comprendre à quoi ça ressemble un procès au Sénat, un procès en destitution. Ce n'est pas que les membres du Sénat siègent quand ça leur tente, c'est qu'ils sont contraints d'être à Washington pour la durée totale du procès.
Alors que pour les délibérations normales du Sénat, ils peuvent ne pas siéger. Ils sont pas obligés d'être là.
Absolument. Et c'est ce qui permet à des types comme Bernie Sanders et Elizabeth Warren
de faire campagne,
qui sont à la fois des sénateurs et des candidats présidentiels. Là, justement, les Bernie Sanders et les Elizabeth Warren de ce monde, pour ne nommer que ces deux-là, et il y en a plusieurs autres qui sont sénateurs et candidats présidentiels en 2020, seraient contraints de siéger 5, voire peut-être 6 jours. Hier, on évoquait un horaire de procès là, qui serait sur 6 jours semaine. Bonne chance pour aller faire campagne en Iowa, au New Hampshire, en Caroline du Sud, en même temps, dans ce contexte-là. Donc, ça les, en bon français, là, ça les squeeze. Et ça les squeeze au pire moment inimaginable parce que ça serait potentiellement le procès au Sénat du début janvier à la mi-février. Les caucus de l'Iowa sont la première semaine de février, primaire du New Hampshire, deuxième semaine de février.
Fait que tu te retrouves, ils pourraient se retrouver dans une situation où ils sont officiellement candidats, sont sur les bulletins de vote, mais ils ne peuvent pas aller serrer des mains, faire des rallyes, etc.
Exactement. Donc, il y a ça qui joue pas en la faveur des démocrates et qui explique qu'ils ne veulent peut-être pas un procès tout de suite. L'autre chose, c'est que c'est loin de faire l'unanimité, de même aller de l'avant pour des raisons purement stratégiques pour le parti. Parce qu'on se dit, OK, on a mis le président formellement en accusation, on a réussi à l'impeacher. On le sait que ça ira nulle part au Sénat, qu'on ne va pas être capable de le faire destituer. Donc, tout ce qu'on court, c'est le risque, en fait, d'avoir un processus qui va être mené par les Républicains, parce que le Parti républicain contrôle le Sénat, donc pourrait inviter des témoins peut-être plus embarrassants pour les démocrates qui n'ont pas été entendus à la Chambre, parce que la Chambre était à la majorité démocrate. Et donc, on s'expose à des risques potentiels avec aucune récompense à la fin parce qu'il va être acquitté, on le sait d'emblée. Donc, pourquoi avoir un procès dans ce contexte-là? Et de façon encore plus générale, le vote sur l'impeachment, et ça, je te dirais que c'est assez mal compris de ce côté-ci de la frontière. Tu disais que j'étais aux États-Unis, je peux te le dire, pour avoir passé le plus clair de la semaine là-bas, c'est loin de faire l'unanimité au sein de la population. Et dans les rangs démocrates, il y a eu plusieurs élus qui étaient très frileux jusqu'à la dernière seconde de voter pour, qui ont voté pour, mais qui, là, veulent qu'on arrête d'en parler de cette affaire-là. Parce qu'encore une fois, c'est pas nécessairement vendeur électoralement.
OK, scénario de fiction. Disons que la Chambre des représentants n'envoie pas l'acte d'accusation pour le procès au Sénat. Ça se rend jusqu'aux élections dans un an. Trump est réélu, mais le Sénat passe aux démocrates.
Et quelle bonne question! Malheureusement, il nous reste 20 secondes, Pat. Je peux pas te répondre à ça en 20 secondes.
Mais ça se pourrait. OK, trouve la réponse, on s'en parle demain.
Non, parce que je
te
dis, tout est possible. C'est ça, la réponse facile à l'ère Trump, tout est possible, mais je te donne une réponse plus élaborée demain.
Merci. je t'ai pris à brûle pour point. Hein?
C'était vraiment excellent.
OK, parfait. Notre gang de 17h arrive. Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, les accros.